Le Space Cast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Ah, ça, cette trame-là, je m'étais juré de la déliter.
T'es
ça,
sérieux?
Non, ça, je trouve, on dirait que je chasse une souris.
Hey, non, mais moi, on parlait de gaming il n'y a pas longtemps, puis ça me fait penser à Banjo-Kazooie.
Ben, tu me fais l'aimer. Effectivement,
ah, bon?
Parce que j'ai plus l'impression d'être Tom dans Tom et Jerry.
Ah ouais?
Puis ça me dérange.
non, mais moi, c'est vraiment l'image qui est venue direct. Là.
OK. Ben, regarde, tu vois, t'es bon pour mon moral. T'es bon pour mon moral. On est avec vous autres jusqu'à 22h. Ça s'appelle le Space Cash. Je m'appelle Jean-Francis Blais. Celui que vous venez d'entendre est Mathieu Dugal en remplacement du chum Louis Gauvin qui sera de retour de ses bains entre hommes la semaine prochaine à compter de lundi. Autour de la table avec nous autres, très content, c'est toi qui as pensé à cette entrevue-là.
Oui.
C'est un gars que tu connais, mais
yes.
Également, ça va nous permettre de jaser musique.
Mm-hmm.
Mais tu sais, jaser vie d'artiste, jaser de comment est-ce qu'on survit dans cet univers-là, comment est-ce qu'on compose aussi dans cet univers-là, comment les choses ont changé à travers le temps. Il s'appelle Vincent Leboeuf Gadreau. Il est mieux connu sous le nom de Surette et il vient de sortir le troisième single d'un album qui va sortir le 8 octobre prochain. On en écoute un extrait. Très nice. Autour de la table, Vincent est avec nous autres. Salut, Vincent.
Bonsoir, Seigneur.
Ça va bien?
Ça va bien, vous autres?
Yes. Excité, parce que, tu sais, le 8 octobre, on va claquer des doigts puis on va être rendu, là.
Oui, c'est vraiment le dernier droit, là, puis pas à peu près. Hein.
Décris-nous ton style un peu, parce que les gens peut-être te connaissent pas. T'es pas à ton premier band, là. T'es pas, tu sais, quelqu'un qui suit un peu la scène underground musicale, peut-être va te reconnaître, là. Mais décris un peu t'es qui, puis le style de musique que tu fais.
Bien, le projet Surette, c'est un projet de rock alternatif en français, francophone. Je dirais que moi, j'appelle ça du rock alternatif à influence industrielle, progressive. Même, on l'entend pas dans les tunes qui sont sorties, mais il y a quand même des dimensions électro, quasiment dubstep dans certaines tunes qui s'en viennent.
Ah ouais, OK. Parce que moi, j'aime bien un artiste de la région qui s'appelle Zagata. J'aime bien ce qu'il fait. Puis ce qu'on vient d'entendre, Laissez-moi dormir, je trouvais qu'il y avait surtout au début une petite vibe un peu Zagata.
Hey,
je trouve.
C'est vrai. C'est pas vrai. Fou, ça. C'est la première fois que je pense à ça.
Mais je sais pas si c'est flatteur ou pas, mais moi, j'aime ça. J'écoute ça sur repeat.
C'est une machine.
Ouais, c'est un très bon artiste, je trouve. Puis je trouve que ça... Pourquoi Surette, hein? Pourquoi ce nom-là d'artiste?
Surette, ça vient de Beauport. C'est une expression qu'on avait. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est amer.
Ouais.
Mais c'est un euphémisme pour amer. C'est quand on est amer d'une situation et qu'on n'a pas de contrôle sur la situation. On voit les choses se passer, on voit le monde brûler.
OK.
Puis on regarde ça puis on se dit. Parce qu'on peut pas rien faire.
Ah ouais.
À part peut-être écrire là-dessus, puis inspirer les jeunes à prendre des mesures pour l'avenir.
That's it.
Oui, effectivement.
On le souhaite,
mais on se dit, il y a peut-être des gens avant nous autres qui ont essayé, puis on est dans cette situation-là, fait que je sais pas si ça va marcher. Est-ce que de composer de la musique, ça a toujours été une façon pour toi comme un exutoire, ou bien c'est juste parce que tu es un geek de musique, puis c'est ça qui te fait plus triper?
C'est un mélange des deux. Je dirais que ce que tu viens de dire, c'est vrai récemment. C'est vrai depuis que je compose en français.
OK.
Parce que, moi, je viens du rock progressif plus. Là. J'ai un band de rock progressif qui s'appelle Inner Odyssey. On a fait 3 albums ensemble. Puis c'est du gros rock progressif, metal, technique, en anglais. Puis ça, c'était mon projet. Là. C'était mon projet de pandémie qui finalement a pris une place plus importante dans ma vie. Puis, je veux pas, le fait de composer dans sa propre langue, ça a quelque chose de cathartique. C'est, ça vient de chercher dans l'authenticité, dans la vulnérabilité, dans le vrai. Fait que c'est sûr que, oui, c'est un exutoire. Puis, tu sais, j'ai été particulièrement sensible à ce qui se passait dans le monde dans les dernières années. C'est très vague, dit de même, là, mais on sait tout de quoi que je parle. Ouais,
ouais. Comment ne pas le light,
c'est
là,
ça. T'sais. Puis, non, pour moi, c'était une façon de lâcher prise. Le okay. fait de coucher certaines choses, sur, certains trucs sur papier, puis et créer de l'art avec ça, c'est mm-hmm. ça. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Et que, ouais, absolument. C'est, pour moi, ça a définitivement cette fonction-là.
Est-ce que ton autre band prog existe encore?
Écoute, ça existe encore, mais il est à l'état de on se fait un souper par année en se disant, ouais, il faudrait qu'on restarte la patente.
Ouais, OK.
OK, OK.
Depuis la pandémie, là, on a sorti un troisième album au début de la pandémie. Lancement annulé, fait que c'est resté sur la glace pas mal.
Okay, fait que de partir surette, ça fait pas de fret avec ta gang.
Ah, oh, pas du tout. Pas okay. du tout, même qu'il y a certains musiciens avec lesquels je collabore encore. Pis,
OK, ouais. OK, parfait.
Pis est-ce qu'eux ont d'autres projets musicaux aussi sur le side? Ou?
La plupart, oui, mais c'est aussi des nouveaux papas, ouais. des nouveaux payeurs d'hypothèques.
La vie change.
Ouais, c'est ça. Mmh.
C'est quoi tes inspirations musicales? Hein? Tu sais, pour arriver à surette, justement, est-ce que ça part 100% de toi ou il y a des gens qui t'ont inspiré?
Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Musicalement, je suis un gros fan de Porcupine Tree,
okay.
un groupe de
prog.
De néo-prog rock british.
C'est Steven Wilson.
Ouais, Steven Wilson.
Ouais, ouais.
J'étais un gros fan de ces bands-là, là, de Opeth. J'étais un vieux fan de Dream Theater. Mm-hmm. Mais des affaires un peu plus punk aussi, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Vulgaire Machin, Exterio, des trucs de même.
Mais que t'aimes Steven Wilson, ça me laisse présager qu'avec Surette, on va être sur un son, sur une toune, sur une autre toune. Qu'on sera pas... Puis c'est correct. Moi, quand j'aime un artiste, j'aime... T'sais, j'adore Jean Leloup. Là, fait que quelqu'un qui me tire dans la pièce comme une balle rebondissante, je vais le suivre. T'sais, j'aime ça. Mettons... Un autre artiste complètement dans un autre style, mais moi j'aime bien Post Malone. Mm-hmm, ouais. Post Malone qui a fait du hip-hop, puis après ça il arrive avec du country. Moi je l'ai suivi là-dedans, puis j'ai aimé ça. J'aime ça qu'un artiste se promène.
Ouais, puis tout ce qu'il fait, il le fait bien aussi.
Oui,
là,
c'est ça
la grosse différence. Là. Mais effectivement, je sors un album là, de 12 chansons, puis ça voyage dans toutes les directions. Je me suis... il y a une unité, il y a une unicité. Tout fonctionne. C'est un album concept quand même, mais on s'en va partout. On voyage.
Mais justement, d'avoir des styles aussi variés sur le même album, c'est quoi le procédé créatif par lequel tu es passé pour avoir autant de styles différents sur le même album?
Ouais, c'est dur à dire. J'écoute beaucoup de styles différents.
Ouais.
J'aime beaucoup de styles différents. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Tu sais, les gens qui disent... Qu'est-ce que t'écoutes comme musique? J'écoute de tout. Moi, je me méfie de ces
gens-là.
Oui, oui, oui. De tout, c'est souvent Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa.
Oh,
on les salue, là.
Mais, oui, c'est ça.
Mais c'est pas tous les styles de musique.
Ouais.
Super chaotique. Des fois, je m'assois, je commence à travailler sur quelque chose, mais la plupart du temps, j'entends quelque chose. J'entends un leitmotiv, un thème, quelque chose qui part. Puis, ça se passe souvent quand j'essaie de dormir. Je me lève, je l'enregistre sur mon téléphone. Là, finalement, j'arrive pas à dormir. J'ai un drum qui s'ajoute, j'ai une ligne de basse qui s'ajoute, j'ai un lead qui s'ajoute par-dessus ça. Fait que, souvent, c'est comme ça que mes maquettes partent. Puis, à un moment donné, je m'installe devant mon laptop. Bon, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à maquettes?
Ouais,
c'est pas pire, ça. Ça fait avec tel texte que j'avais commencé à écrire. Souvent, la musique vient avant les textes, mais encore là, ça dépend. Ça dépend tout le temps. Je peux pas dire que j'ai un modus operandi, mais c'est souvent le chaos. Mmh.
Vivre la musique, c'est-tu quelque chose de possible, d'accessible, ou c'est vraiment réservé à ceux qui vivent comme quasiment un accident, tu comprends? À quel point c'est un rêve possible de vivre quand on est un artiste en plus francophone?
C'est vrai? Puis qu'on n'est pas en jeune de poitrine, mettons.
Ouais, genre, c'est ça. Ouais.
C'est vraiment une bonne question, puis ça prendrait plusieurs heures à répondre. Mon take, c'est qu'il y a une grosse différence entre vivre de la musique puis être connu.
Mm-hmm.
Puis souvent, le public confond les deux.
Ouais.
Donc, on a une idée de ce que c'est en vivre, mais c'est pas nécessairement le cas. Je veux dire, quelqu'un qui a 3 chansons, 4 chansons par année qui roule sur Sirius, il va vivre la musique.
C'est quoi la patente avec Sirius? Parce qu'on a un collègue ici, Nick Cloutier, que je ne sais pas si tu connais, qui est un chansonnier, qui m'a déjà expliqué que vivre de la musique, ça se fait plus aisément qu'on peut penser. C'est un genre de chansonnier de bar. Mais vivre aussi. Tu sais, c'est dur de vivre cette vie-là de chansonnier puis de carrément juste arriver dans la vie, pas juste financièrement, là, pas t'arracher à la tête carrément avec ce rythme de vie-là. Puis il m'a déjà dit justement que la clé du puzzle, c'est rentrer sur XM Sirius.
Mais en même temps, Sirius XM, c'est... Je pense qu'il faut le voir comme de la beer money. Parce que il n'y a absolument aucune garantie de se retrouver là. On a beau travailler avec la même pisteur radio depuis des années, à un moment donné, les tunes ne vont plus rentrer. Il ne faut pas prévoir ça dans notre budget.
OK, mais pour comment on rentre là et pourquoi c'est plus payant que...
Dans le fond, il y a plusieurs chaînes, plusieurs chaînes à Sirius. Puis je m'excuse à la maison s'il y a des personnes plus connoisseurs que moi là-dessus. Là. Je m'excuse.
C'est la radio satellite où opère Howard Stern depuis des années. Là.
C'est des radios de char aux États-Unis,
ouais.
Principalement.
Oh, okay. Puis c'est eux autres que quand ton abonnement est fini, là, ils vont te rappeler puis ils vont se mettre tout nus pour que tu restes abonné.
Puis dans le fond, c'est que, bon, de ce que j'en comprends, il y a des ententes pour diffuser de la musique francophone, canadienne, québécoise, avec le CRTC, sur certaines chaînes, dont trois chaînes principales. Influence Franco, Attitude Franco, puis Racine, Roots.
OK.
Et, bon, ça marche un peu par quota. Il y a un certain pourcentage de la richesse qui doit être répartie avec certaines ententes, ce qui fait que trois chaînes se partagent quand même un bon pote.
Okay.
Donc, chacune des pièces, à chaque rotation, il y a quand même un bon montant qui est réparti dans les ayants droit producteurs et les ayants droit interprètes.
Okay.
Ce qui fait que moi, quand j'ai une chanson qui embarque sur Sirius, ben, moi, traditionnellement, je donne tout le temps une partie de mes droits de producteur aux musiciens avec lesquels j'ai travaillé sur l'album.
Oh, oui.
Même chose pour les interprètes. Ben, les autres sont contents parce qu'il y a de l'argent qui rentre pour une tune qu'ils ont enregistrée en studio il y a un an. Pis...
C'est ça.
Mais bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est très incertain parce que même si une chanson fit avec leur programmation, ça veut pas dire que vers cette saison-là, ça va fitter avec l'horaire. Avec,
tu ne ramasses pas dans une rotation à l'infini. Là.
C'est un coup de dé à chaque fois.
Okay.
Je dirais que ça, c'est la façon la plus grasse d'en vivre si on réussit à se plugger. Mais bon, on a quand même l'impression qu'on parle à une machine, puis qu'on espère qu'elle va nous choisir.
Ouais, ouais, OK.
Puis en faisant...
Ce qui est hasardeux comme plan de carrière.
Oui, exactement, ah, c'est ouais. Ça.
Puis en faisant, comme là, on parlait de ton prochain album qui sort au mois d'octobre, et tu sais, on parlait justement que tu as plein de styles un peu différents à travers tes chansons. Est-ce que ça te donne une chance de plus d'avoir plus de rotation sur des plateformes comme ça, étant donné que tu varies ton style, puis c'est pas juste métal, exemple?
Oui et non. Parce que, dépendamment, il y a des diffuseurs, des programmateurs qui vont préférer des projets qui sont plus. Ont plus une identité stable.
OK.
Je pense que le prochain album a une identité stable, mais ça demeure éclectique. On voit mes inspirations, on voit partout où est-ce que je vais. Mon défi, c'est tout le temps ça. C'est d'essayer de ramener ça dans un moule tout en me permettant d'aller partout en même temps.
C'est un facilitateur chanter en français. Hein? D'un point de vue juste business, je comprends que ça rend le processus créatif plus authentique parce que c'est ta langue d'origine. Tout ça, je le comprends, il n'y a aucun doute. Mais d'un point de vue business, c'est plus wise au Québec de chanter en français qu'en anglais, non?
Je le sais pas.
Ah ouais, OK.
Parce que... je pense que c'est vrai dans un contexte de musique pop, de musique commerciale, mais ça, c'est un marché qui est saturé depuis longtemps.
Mm.
Faire de la musique en français, je pense que ça peut aider un band à starter, à être reconnu, à être connu rapidement parce que c'est un petit écosystème avec des événements comme le Festival Off de Québec, le Fuck Off, l'Ampli de Québec. Je pense que c'est un facilitateur pour se faire un nom au niveau local.
Okay.
Mais de grossir, c'est le même bottleneck. Il y a énormément de compétition. Puis depuis la pandémie, ben tout le monde avec la PCU s'est acheté une carte de son puis un mic à 900
piastres. Ouais, ouais, c'est ça. Tout le monde est capable de se faire un studio dans son sous-sol.
Tout le monde est capable d'enregistrer un album à la maison. Ça veut pas dire qu'il va sonner, mais ça, c'est une autre affaire. Les affaires qui sonnent pas, qui sont plus low-fi, c'est aussi un style super à la mode. Tout ça pour dire qu'il y a plus de compétition. C'est un marché qui est plus saturé qu'avant. Moi, je pense que si j'avais un... Parce que je suis bilingue, je suis capable de parler et de chanter en anglais, mais je pense que ça va toujours s'entendre quand c'est pas ta langue d'origine.
Ouais.
Et même si on est des années à travailler là-dessus, je pense que c'est avisé de faire de l'art dans sa langue d'origine. Il y a beaucoup d'experts qui préconisent ça.
Est-ce que c'est ardu d'obtenir des subventions?
Pas durable.
Ah ouais?
Oh.
Parce que ça, c'est un sujet comme quasiment un peu tabou parce qu'il y a des gens qui sont très hostiles à ça. Je suis ambivalent. Je vais t'expliquer le fond de ma pensée, puis après, je te laisse aller. Je comprends qu'avec le coût de la vie, puis ci, puis ça, tu sais, tout ça, que les gens sont comme... Hey, que mon argent aille à des subventions, à des gens qui je prends un raccourci intellectuel, là, n'ont pas le talent de vivre de leur art. Mais en même temps, je garde en tête que la culture, en tout cas pour moi, c'est important. Puis même dans des contextes comme la Deuxième Guerre mondiale, là, en Angleterre, alors qu'il y avait un effort de guerre, Churchill a gardé son investissement en culture à intégral. Fait qu'il y a de quoi de... Tu comprends? Il y a de quoi d'important... Tu sais, il s'est dit, à ce moment-là, si notre peuple est en train de peut-être mourir, on va faire préserver notre culture, on va continuer à la faire vivre pendant ce temps-là. Fait que pour moi, quand tu vois le long terme, il y a quelque chose. Mais en même temps, ça ne change pas que le prix de l'épicerie dans le piton pareil, tu sais.
Puis, tu sais, je peux comprendre qu'à la base, quand on conçoit pas, on comprend pas le bienfait de la culture dans notre société, c'est dur d'adhérer.
Ouais. Ça, puis aussi, tu sais, il y a peut-être, puis je sais même pas si c'est vrai, mais tu sais, quand je vois, mettons, je m'imagine pas quand je vois, parce que c'est faux, je vois pas, je connais pas assez ça, mais si je m'imagine que Éric Lapointe reçoit encore des subventions, je suis comme, man, ton nom est fait, puis d'après moi, tu roules pas pire, puis que du monde par en dessous, eux, sont pas capables de juste rentrer dans le trail, on dirait que le système marche pas. Est-ce que mon analyse fait du sens?
Tente-moi, je suis parti.
Ouais, ben, vas-y. Let's go, man.
Je suis pas Monsieur Lacombe, je suis pas ministre de la Culture, puis je suis pas un expert non plus, mais il y a quand même beaucoup d'études qui démontrent que premièrement, c'est moins de 1% du budget annuel, là, la culture. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que les investissements en culture rapportent beaucoup plus.
Que le montant investi.
Les infrastructures, que les autoroutes, que dans tous les domaines. Mm-hmm. À cause que ça fait travailler du monde, à cause que ça crée de la richesse, puis à cause que ça crée de du rayonnement à l'étranger.
Oui. Mm-hmm.
C'est niaiseux, là, mais on n'est pas obligé d'embarquer sur un gène de poitrine, là,
mais
ça a des répercussions majeures pour
mais
le Canada. Tu sais.
C'est sûr, ben oui. Oh. Puis moi, c'est des affaires qui sont importantes pour moi, juste l'espèce de fierté nationale. Oui, là. C'est bon d'avoir des gens, des nôtres qui rayonnent à l'international. C'est juste excellent, là, en fait. Là.
Je pense qu'on peut... J'essaie d'être politiquement correct. Je pense qu'on peut questionner la façon que c'est octroyé. Mm-hmm. Parce que je pense que souvent, mettons qu'on parle juste au niveau artistique, au niveau musical, on parle des labels, je pense que c'est assez évident que c'est souvent les mêmes qui reçoivent le 90%.
Mais tu confirmes ce qu'un néophyte comme moi pense, c'est-à-dire que c'est comme une clique qui tourne entre eux autres, là, puis la clé, c'est de rentrer dans la clique.
Écoute, je serais pas prêt de dire ça à la radio.
Ouais. Mais, tu fais bien.
Mais je pense que le défi, c'est un peu ça. Puis je reviens au concept de « make it », en vivre versus être connu. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'en vivre sans rentrer dans le clic.
Je comprends.
Parce que je pense que... Puis je pense que c'est un bon exemple. Là. Mettons, les gens qui écoutent Radio X, je pense pas que c'est nécessairement une clientèle qui vont triper sur la musique qui sort du Pantoum, mm-hmm. ou même qui sort de Bravo Musique, qui sont des labels qui ont leur son à eux. Qui sont
plus underground peut-être.
Exactement. Ouais. Moi, ma musique, je m'en rends compte tard que c'est pas de la musique à clic. Que les gens qui vont aimer ça, c'est pas parce que ça c'est un band qui est dans tel label, puis j'aime les autres bands. C'est des gens qui vont découvrir ça puis qui vont trouver ça bon. Mm-hmm.
Tu dis que tu t'en rends compte tard. Est-ce que si tu t'en étais rendu compte plus tôt, tu aurais changé des choses par rapport à la façon que tu fais de la musique?
Ben, en fait, c'est que là je sors un album. Oui. J'ai sorti deux EP en 2023-2024. Oui. J'ai sorti une couple de singles avant. Fait que j'avais déjà une quinzaine de chansons qui roulaient. Il y en a là-dedans que j'ai essayé de... J'avais l'objectif que ça rentre à SiriusXM. Je dis pas que c'est... pas juste ça, là, ça faisait partie de mes préoccupations. Je dis pas que c'est une marche à suivre, mais ça donne quand même un coup de main quand on n'a pas de soutien, mm-hmm. pour créer. Mais n'empêche que pour moi, c'était une première expérience de faire de la musique en français. Quand même tard dans ma vie. Je me cherchais, j'essayais de trouver mon son. Mm-hmm. Alors, j'avais un peu l'impression de recommencer à zéro parce que la musique, des projets de compos, j'en ai plein. J'ai enregistré plein d'albums avec plein de projets.
Mais c'était pas ton son à toi. T'sais, c'était des choses qui t'inspiraient puis que t'aimais, mais c'était pas nécessairement toi.
Ben, disons que j'étais en train de raffiner mon son.
Okay.
Puis je l'ai laissé se métisser un peu de ce qui se fait au niveau local. Je pense que comme n'importe quel musicien, on a besoin d'affiliation. On a besoin de reconnaissance des pairs. Puis Le phénomène de clic, je pense qu'il est réel. Je pense qu'il est peut-être pas aussi hollywoodien qu'on le pense, mais je pense qu'il est réel, puis que des fois, il devrait avoir des mécanismes en place pour faire en sorte que ça soit pas opaque, hermétique.
Okay.
Parce que si quelqu'un se met à dos, quelqu'un d'une clique, puis qu'à cause de ça, il ne peut plus faire de la musique dans sa ville.
Ben, c'est triste.
Non, ça n'a juste pas de sens. Ah,
tu déménages pour aller faire de la musique.
Non, ça ne fait pas de bon sens. Tu parlais de ne pas avoir de support, entre autres monétaire, mais là, maintenant, puis tu nous le disais avant d'entrer en onde, tu en as du support, puis moi, je suis un gros fan de ça. Pas plus tard qu'hier, moi, il y a un brand de Québec qui, moi, les artistes plus visuels, parce que je suis dans le tatouage, ces affaires-là, puis il y a un brand de Québec qui ont commencé à sortir des chandails Shred Hills, quelque chose du genre.
Okay.
J'ai tout de suite acheté un chandail parce que j'ai toujours aimé le socio-financement. Pis ces affaires. C'est un... Moi, là, de mettre mon argent dans les gens que j'aime, je faisais ça à 20 tarifs à Trump. Là, tu comprends? L'achat local. Je n'ai pas allumé il y a 6 mois. Moi, là. J'ai toujours aimé ça. Puis là, tu as fait affaire avec... Vraiment, il va falloir que tu me l'expliques. Qu'est-ce que La Ruche? Puis tu as des maudites belles nouvelles en lien avec une campagne de socio-financement que tu as faite.
Ben, moi, c'est la première fois que je fais ça. La Ruche, dans le fond, c'est un organisme de socio-financement. C'est une plateforme qui permet de créer des campagnes de socio-financement.
C'est drôle que tu parles de socio-financement aujourd'hui puis que tu me dises que tu es un fan de Steven Wilson, parce que moi, dans le temps que j'étais dans l'émission du Retour, je travaillais avec un gars qui était un fan de Steven Wilson. Mm-hmm. Puis je pense que Steven Wilson a été assez précurseur, justement, sur le socio-financement dans le genre plusieurs paliers, là. L'album, là, tu rajoutes un autre montant, jusqu'à, mettons, viens souper avec moi à la maison. Là.
Ouais.
C'est quand même très hot.
Oh oui, c'est comme un... lui, il fait beaucoup de pré-vente. Il est très fort aussi dans les goodies, sortir des collector editions. Il sait que sa clientèle, c'est très...
c'est des collectionneurs. C'est des geeks.
C'est ça, oui, c'est des geeks. Puis, tu sais, dans mon cas...
Oh, le téléphone qui part.
dans mon cas, moi, j'ai fait... Je fais des demandes de subvention depuis toujours parce que j'ai faut essayer. Tu sais, puis c'est en faisant qu'à un moment donné, ça réussit. Mais bon, c'est la 5e fois cette année que je demande un soutien à Musique Action, qui est un des difficiles à avoir. Puis en fait, c'est un petit peu ça la constatation. Ça marche pas, là, mettre autant de temps, d'heures... De sollicitations pour un projet que à chaque année, je me fais dire « Ton projet est bon, mais on n'a pas assez d'argent à donner pour toutes les personnes qui demandent. Tel artiste qui est full connu, l'a pas eu cette année, tel aussi. » Je suis comme « Ouais, mais c'est quoi les chances que je l'aille? » Moi, ma réflexion, c'était « OK, je reprends contrôle de mon financement. J'essaye de à place de mettre ça dans les mains de des jurys que je sais même pas si c'est peut-être Joe Blow en danse qui analyse mon dossier en musique.
Je dis pas des experts du domaine.
Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui est super fort avec Excel, mais pas tant en musique. Là.
Peut-être. J'ose pas prétendre. Mais l'idée, c'est de reconnecter avec mon réseau, mon public. Je sais quoi la différence entre ça et une pré-vente. T'sais.
Non, écoute, moi, c'est très semblable.
Moi, je suis fan. Tu sais, je suis un gros, gros fan des Denis Drolet. Puis depuis qu'ils ont Rince Crème. Non, mais donc, tu comprends bien mon exemple. Les gars se sont créés leur île déserte. Puis fuck le reste, dans le fond. Là. Fuck le reste. Eux autres, c'est un méga succès, finalement. Là, mais d'aller chercher tes fans directement. Du love money de la famille aussi, probablement aussi. Mais why not?
C'est juste l'affaire, c'est pas quelque chose qu'on peut faire chaque année. Là. Puis moi, c'est la première fois que je le fais. Puis honnêtement, j'ai tellement sollicité mon réseau que je me vois pas le faire avant un bon 10 ans. Mais en gros, j'ai lancé une campagne de socio-financement à La Ruche. Puis l'objectif, c'était... à titre exemplaire, là, j'ai l'album que je vais sortir en octobre, j'ai dû mettre à peu près 20 000 piastres dans ma poche dans la dernière année. Pour ce qui reste... Pour la partie promotionnelle, le spectacle de lancement, tout ça, j'évalue que j'ai besoin d'un minimum de 10 000 $.
Mais okay, le 20 000, c'est juste pour produire l'album en tant que tel, pas sa promo?
Ça serait la production et la promotion.
Mais
tu sais, la promotion a commencé il y a quelques mois. Essentiellement de la production que je parle. C'est un album, c'est pas un EP, là, c'est un album complet.
Ouais, c'est un album complet.
Le temps du studio, ça coûte une beurre à ce point-là?
Oui.
Ah ouais, c'est ça. Okay.
Mais tu sais, ça dépend avec qui qu'on fait affaire. Là. Il y a des gens qui sont pas pro bono, mais qui vont... Puis il y a beaucoup de gens qui font leur propre production aussi. Mais moi, j'ai voulu travailler avec quelqu'un qui comprend bien ce que je veux, puis on a fait une co-réalisation ensemble, puis dans les faits, ça m'a coûté beaucoup moins cher que à d'autres
que le vrai
endroits,
prix. Okay, okay, okay.
Et bon, ce qui reste, c'est tout le volet promotionnel, mais aussi presser des vinyles. T'sais, ça coûte cher, des vinyles. Là, faire des t-shirts, faire des affaires pour que après ça, je puisse rouler, que je puisse tourer, puis avoir des goodies, avoir des affaires, tu sais. Mais en gros, je viens de lancer une campagne de socio-financement. J'ai fixé un montant minimal à 5 500. T'sais, la façon ça marche, la ruche, c'est que tu fixes un montant minimal, même si tu as besoin de plus, même si tu as besoin du double, mais que si tu n'atteins pas ce montant minimal-là, tu n'as pas l'argent.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça le sérieux de la démarche. Okay. C'est qu'il faut que tu montres que... Puis là, on pourrait être porté à dire, ouais, mais le plus bas, puis ça va être moins risqué.
Mais en même temps, toi, ça tire dans le pied parce que c'est pas assez pour toi.
Mais je veux dire, je peux dépasser le montant.
Oui,
mais c'est que quand les gens donnent puis qu'on dépasse le montant, le phénomène qui se passe, c'est que les gens arrêtent de donner.
Ah oui!
Alors que le projet coûte beaucoup plus cher que ce montant minimal-là. Mmh. Mais l'affaire, c'est que je l'ai sorti avant-hier, puis j'étais à 1000 $ d'avoir mon montant minimal.
Wow!
Déjà, wow!
On a dépassé 4 600 tantôt.
Hey, félicitations, c'est vraiment cool.
Merci, mais moi-même, vraiment. J'en reviens pas, là.
Mais c'est hot, puis ça montre la beauté, justement, des gens qui aiment ce que tu fais.
Absolument.
Qui aiment la personne que t'es, qui te connaissent ou pas, puis let's go, ils investissent en toi. Moi, c'est, je trouve que c'est la plus saine des subventions, je trouve.
Ben oui, c'est I guess.
Puis justement, dans ta campagne de sociofinancement, pour les gens qui donnent, tu parlais tantôt de goodies, puis tout ça, j'imagine qu'il y a des strates avec lesquelles tu peux obtenir quelque chose pour ce que tu as donné. Ou...
Écoute, les gens peuvent faire des dons, évidemment, mais dans le fond, je vends un vinyle, je vends des t-shirts, je vends des magnets, des aimants à frigo avec thématique surette, là, c'est un citron avec des yeux en X, pis vraiment nice. Il y a un print aussi de l'artiste qui a fait mes visuels, Kevin Stapleton, on le salue. Qui est un artiste incroyable. Et il y a des offres exclusives comme si quelqu'un a envie de payer 500$ pour un spectacle privé, ben j'offre un spectacle privé acoustique en duo avec une chanteuse percussionniste qui m'accompagne.
Cool.
J'ai même des partenaires qui ont donné des certificats cadeaux. Il y a ma station café en Basseville, il y a les salons d'Edgar et le cabinet mystériste qui est un jeu d'évasion. Mm-hmm. En ce moment, les salons d'Edgar, ma station sont tous écoulés. C'est parti comme des petits pains chauds. Mais le cabinet mystériste, si quelqu'un a envie de découvrir un jeu d'évasion, ben t'achètes un billet 40$, moi ça me donne 40$. Fait que, je veux dire, tu me fais un don, mais en même temps, tu as la valeur courante après. Tu sais, je veux dire, go,
c'est hot.
Acheter. Dans le fond, là, c'est surette.live, puis vous avez un link là-dessus.
Ouais.
Mais une des offres exclusives aussi que j'ai ajouté, c'est niaiseux, là, c'est pour 30$, tu offres une vidéo de joyeux anniversaire à quelqu'un.
Oui!
Fait que là, il y a des gens qui... Puis je pensais pas que ça pognerait de même, mais il y a
personnalisé.
Dans le fond, moi, après ça, j'ai le nom de la personne, je fais une vidéo, est-ce que je chante bonne fête, puis je vais ajouter des éléments qui sont personnalisés à cette personne-là. Et je lui envoie la vidéo en disant que ça vient de telle personne.
Moi, c'est bien meilleur. Tout le monde, on avait payé une bande d'Africains, donné un bec sur une photo, puis après ça, ils dansent autour. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, ils sont virales. Un de nos chums de gond, on lui avait viré l'argent.
Puis
c'est une photo imprimée. Bonne fête, Louis-Philippe, happy birthday, puis là, des gros becs, puis ils commencent à danser autour. C'est bien mieux, toi.
Ben moi, ça m'étonne parce que c'est super populaire. Puis tu sais, c'est drôle parce que. Il y a des gens qui vont se l'offrir à eux.
À eux-mêmes?
Ils disent « Souhaite-moi bonne fête à ma fête. » Ou bien quelqu'un d'autre. Mais là, je me ramasse avec un calendrier de la prochaine année avec des dates qu'il faut que je souhaite bonne fête à
tout
le monde.
C'est ça?
Je trouve ça quand même vraiment cool parce que les gens, ils participent à ma campagne. Puis bon, tu sais, faire des vinyles, des t-shirts, ça a un coût. Ça n'a pas de coût.
Ouais, c'est ça.
C'est juste mon temps. Puis moi, je trouve ça le fun... donner de la douceur aux gens.
Ah, vraiment?
Les gens, ils me donnent de la douceur en investissant dans ma campagne, puis ils se donnent de la douceur en recevant ça, tu sais.
Ah, c'est vraiment...
Je trouve ça... Je trouve ça cute!
Non, ben moi, ça. Et moi aussi, puis ça renforce mon amour du sociofinancement. Là,
mais oui.
Les gens, quand ils aiment quelque chose, c'est juste normal de mettre notre argent dedans, puis ils gardent.
100%.
Si on veut que quelque chose marche, c'est la bonne façon de le faire. Fait que le lien, si on veut donner.
Ben, dans le fond, sur la plateforme La Ruche, vous pouvez chercher Surette. C'est Surette avec un U accent circonflexe. Mais le plus rapide, c'est mon landing page, mon site web qui est surette.live.
Point live?
Ouais, S-U-R-E-T-T-E.L-I-V-E. C'est un des premiers onglets qu'il va avoir, puis c'est un landing page pas compliqué. Là. Je veux dire, ma tante est capable.
Hey, Vincent, ça a été un grand plaisir de te recevoir en studio. Absolument. Jaser des coulisses derrière ça, la création d'un album aussi. Je te souhaite, je sais pas si dans cet univers-là, il faut dire merde, bonne chance, là, mais...
Tu dis ce que tu veux.
Ouais, brise une jambe.
Ouais, je suis pas tant superstitieux.
Je te souhaite juste que les gens qui t'aiment continuent à t'aimer puis en parlent. C'est la meilleure. Moi, je crois vraiment à ça, bouche à oreille. Hey, t'as-tu écouté telle affaire? Oui, oui. Puis là, eux autres, dans un moment solo, vont écouter ce que tu fais puis ils vont se joindre à ton groupe qui, j'espère, va être comme avec les Denis, man. Juste assez pour en vivre. Ben, eux autres, ils en vivent.
Ben oui.
Millionnaires.
Mais il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille. Yes. On a beau aller chercher de la stratégie virale en ligne avec les médias sociaux. C'est cool quand ça marche, là, mais c'est la preuve que ça marche. J'ai un bon réseau puis c'est des gens qui ont envie de s'investir. Puis là, je le réalise vraiment. Là.
Ah, c'est hot.
Puis justement, dans ta campagne de sociofinancement, tu as des entrées VIP pour le show du 15 octobre qui vont avoir lieu au Grand Théâtre.
C'est vrai, c'est mon bundle VIP, c'est le plus value. Dans le fond, pour 50$, tu as à peu près 80$ de
valeur, de cadeau.
Tu as un vinyle, parce que les billets ne sont pas encore en vente au Grand Théâtre. Le spectacle a lieu au studio TELUS du Grand Théâtre. Le spectacle va avoir lieu le 15 octobre.
15.
Okay. Et dans le fond, les billets vont être en vente dans une semaine à peu près, mais d'ici là, c'est un tarif préférentiel. Tu as un vinyle, tu as une entrée VIP pour le spectacle, tu as un magnet, tu as des stickers et ma gratitude éternelle.
En plus,
tu vois. Dessus.
Un vinyle autographié. Ben, tu sais, je veux dire,
pour il
y a des personnes qui commandent les deux. Ouais. Mettons un couple. Là, dans ce temps-là, je change un vinyle pour un t-shirt sur demande, mais je suis parlable. C'est le même prix, un vinyle puis un t-shirt.
Ah, ben voilà.
Allez, merci Vincent.
Merci à vous autres. Bonne soirée.
Bonne soirée. On fait une courte pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h. On revient.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.